Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mélusine Malander a deux passions, l'aventure en solitaire à moto et la condition des femmes. Elle a mis la première au service de la seconde en parcourant les routes persanes. 27 000 km en Asie centrale au guidon de sa 800 cm3 à la rencontre de ses sœurs d'Asie centrale. Dans notre émission Regarde ailleurs, je lui donne la parole. Bonjour Mélusine.
Je suis voyageuse, je suis costumière, je suis curieuse. Et je voyage plus particulièrement là, ces derniers temps à moto.
On va définir tout ça. Déjà, une voyageuse. Qu'est-ce que c'est qu'une voyageuse? Comment tu définirais ce terme?
Voyageuse dans le sens d'aller ailleurs, d'essayer de se poser des questions et de ramener quelque chose.
Est-ce qu'on est voyageuse ou on le devient?
Je pense qu'on... Moi, je suis née voyageuse. Je crois que je suis née voyageuse.
Comment tu le sais?
Je le sais parce qu'à 5 ans, je faisais être hôtesse de l'air. Et j'ai toujours eu envie d'aller ailleurs, depuis toute petite. Depuis mes premiers souvenirs, c'est je voulais aller voir ailleurs.
Et tu avais déjà dans ta famille des gens qui t'ont introduit au voyage, ou c'est vraiment quelque chose? Non, tu savais que tu voulais être voyageuse.
Je crois que mes parents, sans être des très grands voyageurs, étaient à leur, on va dire à leur échelle. Ils avaient un van et l'été on partait dans le van et on dormait dans le van et c'était un peu hippie et du coup on partait sur les routes, enfin, on allait voir la famille, ça c'était pas toujours pour aller voir des choses extraordinaires mais on était en mouvement.
Okay, donc tu as été habituée à ça. Donc voyageuse, ok. Costumière, qu'est-ce que c'est qu'une costumière?
Costumière, c'est en fait c'est mon premier métier, voilà. Je suis costumière, je suis à la fois, je confectionne, je crée, j'habille dans le spectacle vivant, surtout le théâtre et le cabaret. Et pour moi, c'est aussi pareil, une démarche qui est similaire. Pour moi, un costume, quand on va voir un spectacle, enfin, ou quand on crée, en tout cas, c'est un costume. Derrière un costume, on se pose la question, bah, évidemment, du personnage de la pièce, de l'époque, mais aussi pourquoi est-ce qu'il va mettre ce costume-là à ce moment-là, l'interaction qu'il a avec les autres personnages, et aussi en même temps la personne qui va le porter, et le regard du public. Et donc tout ça mélangé, c'était ça que j'aimais dans le costume.
Tu dis costumière, c'est ton premier métier, donc ton deuxième métier c'est quoi?
Ma voyageuse.
C'est un métier?
J'aimerais bien, mais en tout cas ça me prend beaucoup de temps.
On va revenir à Mélusine, peut-être la première fois où tu es partie... hors du contexte familial, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es parti? Pourquoi? Où? Comment? Emmène-nous un peu avec toi sur les routes du monde. Alors je sais que tu voyages en moto, est-ce que ça a toujours été en moto? Retrace un peu ton itinéraire de voyageuse.
Ça a commencé, je crois, les premiers voyages que j'ai faits où je suis partie toute seule, je suis partie plutôt dans des structures organisées humanitaires parce que j'avais envie que ce soit utile aussi, j'avais envie de découvrir le monde, mais j'avais pas envie de le faire de manière... J'avais envie de passer du temps sur un endroit et d'avoir des ressentis plus particuliers. Et je crois aussi que ça rassurait mes parents. J'avais 18 ans. Faut le dire aussi, hein, faut penser aussi à ses proches. Après, en passant du temps justement dans ces missions, on voyage un petit peu autour et on prend le sac à dos, on se déplace et ainsi de suite. J'ai commencé à devenir, on va dire, voyageuse à sac à dos. Et après, j'ai eu une rencontre avec un vrai explorateur, pour le coup, Christian Clos, qui m'a emmené pendant 6 mois en Patagonie. Et nous avons marché pendant 3 mois et nous avons fait du kayak pendant au moins 2 mois. Et là, on était en complète autonomie. Et à partir de là, je veux dire, le monde était pour moi ouvert. J'avais plus de limites. Et du coup, ça m'a donné des clés. Et après, je suis motarde. Dans l'âme, et j'avais cette moto depuis 10 ans, et quand je suis revenue de cette expédition en Patagonie, c'était une évidence. de partir avec cette moto, de faire un dernier voyage avec elle parce que c'était une vieille moto, elle avait 110 000 km pour une 125, c'est assez conséquent, et d'aller le plus loin possible avec elle. Et c'est comme ça que ça a débuté.
Je vais d'abord m'intéresser à la première étape que je trouve intéressante aussi. Quand on a 18 ans, c'est vrai qu'on est, certains nourrissent cette envie d'ailleurs. Et le fait d'avoir un cadre peut-être rassurant et peut permettre de mettre un premier pied dans l'ailleurs, dans le voyage. Donc comment est-ce qu'on en vient à travailler pour des ONG? Tu peux peut-être juste présenter quelques organismes, peut-être pour donner quelques pistes ou inspirer celui qui écoute et qui a aussi 18 ans et qui aimerait aussi commencer à croquer le monde.
Alors, j'ai pas d'ONG à conseiller. Moi, je suis partie avec des ONG locales et je crois que pour moi, c'est plus simple parce que je suis très partagée maintenant sur les ONG. Je pense qu'il y a une utilité et à la fois, il y a aussi beaucoup d'abus administratifs. Donc, ça, j'ai trouvé qu'il faut vraiment, par contre, passer du temps pour bien choisir l'ONG. Si on doit partir, si quelqu'un a envie de partir dans ce cadre-là, l'humanitaire, qui est très beau et qui est pour moi une des plus belles expériences que j'ai fait aussi humaine, c'est quand même avant tout de bien choisir, parce que là, je suis partie plusieurs fois et ça m'est arrivé, et c'est pour ça que j'ai arrêté à la fin, c'est parce que j'avais l'impression d'être inutile. On m'avait emmené quelque part, on m'a fait découvrir un pays, mais moi, j'avais pas eu l'impression d'être utile pour les populations que j'étais censée aider. Ça m'avait aidé moi, on va dire, dans ma construction personnelle, mais je suis restée un peu insatisfaite de ça.
Mais ça a été quand même un moyen de mettre un pas devant l'autre et puis de se lancer. C'est peut-être ça qui est positif finalement. Donc moi, je pense à des organismes, ça s'appelait Concordia ou Solidarité Jeunesse, où c'est des projets de 3 semaines, je crois, c'est où ça. Tu vas sauver des tortues, tu vas planter des arbres, tu vas construire des écoles, ce genre de projet-là, c'était ça.
C'est ça. Et c'est des très beaux projets et c'est pas du tout... Et je pense que c'est bien dans la construction de commencer comme ça. Parce qu'effectivement, ça donne un cadre, ça donne un but et ça permet de passer du temps et de se donner des moyens en fait ensuite de découvrir un petit peu autour. Et je crois que j'en ai vu beaucoup dans plein de pays, des jeunes qui font du bénévolat. J'étais moi-même et je pense que ça aide. Ça permet de se construire soi.
Après, tu me parlais d'une rencontre marquante, d'un vrai explorateur pour le coup. Donc reviens sur cette rencontre et parle-moi de cette exploration, de cette aventure.
Christian Clos, oui, il est vraiment un vrai de vrai explorateur.
C'est quoi un vrai de vrai explorateur?
C'est quelqu'un qui va dans des milieux, on va dire, extrêmes, difficiles, inexplorés. Parce que quand on parle d'exploration, c'est donc aller dans des endroits qui n'ont pas été explorés, dans des zones un peu grises, et qui va ramener quelque chose de ces endroits-là. Lui, c'est quelqu'un qui... et puis en plus, on va dire que de plus en plus on connaît le monde, donc évidemment les endroits qui sont de plus en plus inexplorés sont de plus en plus difficiles à atteindre. Donc il faut quand même être un peu que... Faut pas avoir peur. Et lui, il en fait partie, il a pas mal fait d'exploration en cordillère de Darwin, et dans d'autres milieux extrêmes de divers et variés du monde. Et lui, j'ai eu la chance, on va dire, le privilège qu'il m'emmène avec lui et me faire découvrir sa Patagonie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Amène-nous avec toi, recréer la dimension visuelle, le quotidien sur une semaine aux côtés de Christian.
Nous sommes partis en Patagonie, ça a été pour aller sur la trace de deux tribus, enfin de deux ethnies, des Tehuelch qui vivaient dans la plaine de la Pampa et qui étaient grands et élancés, et ensuite d'aller dans les canaux de Patagonie sur la trace des Kawescar qui vivaient dans des canaux.
Donc là en Patagonie, on est tout au sud de l'Amérique. On est où? On est en altitude, on est au bord de l'océan. Décris-moi un peu aussi l'endroit. Donne une dimension visuelle à tout, quoi, à ces populations, aux paysages traversés et aux journées quotidiennes.
Alors, la Patagonie, c'est presque aussi grand que la France, mais c'est un immense, pas dire plateau, mais un immense endroit très désertique. On a vraiment la cordillère des Andes qui descend tout au bout. On est au bout de l'Amérique et c'est, il y pleut très rarement, mais c'est une terre de vent. C'est les vents sont omniprésents. On a marché dans des grandes estancias qui font des milliers d'hectares sans croiser personne. On avait un petit chariot pour pouvoir mettre de l'eau parce qu'il y a quand même très très peu d'eau. Et les premières semaines, nous avons comme ça marché. Je découvrais la marche, je découvrais le portage parce qu'on avait, moi j'avais 20 kilos sur le dos, Christian lui en avait 35. Et on portait aussi des chariots où on contenait toute l'eau et la nourriture pour être autonome pendant au moins une quinzaine de jours, même un peu plus à l'époque. Et au début, on se dit, c'est pareil. Il y a des collines, c'est jaune, c'est des herbes, c'est du sable, c'est des grosses touffes un petit peu herbeuses, un peu drues parce que c'est quand même un paysage, c'est un climat hostile. Il y a énormément de vent, une grande sécheresse, donc les plantes, elles survivent comme elles peuvent. Et au début, on se dit, oh là là, on marche 1 kilomètre, 2 kilomètres, 1 heure, 2 heures, et on a l'impression que c'est pareil, qu'on n'avance pas, qu'on est sur un tapis roulant qui est le même, et c'est hyper frustrant. Et puis au fur et à mesure, on s'intègre dans cette nature, on ressent le ciel paraît immense dans ces endroits-là, on a l'impression que le ciel est plus grand que la terre, on est complètement absorbé par cette nature, et on commence à comprendre les nuances. Tiens, là, il y a une mousse qui est un peu différente. Là, le sable a changé de couleur. Au fur et à mesure, ouais, on s'imprègne au pas, au fil des pas et des roulements de la roue. Et là, ça devient magique. Là, ça devient... je crois que c'est les plus beaux moments où on commence à accepter aussi parce que on a envie d'aller vite. Moi, je suis de la ville, hein, quand même. Je suis à Paris, je vis à Paris. On est dans un truc un peu où l'homme décide de tout. Et on se retrouve dans une situation en Patagonie où il y a une grande frustration parce qu'on est face à une nature qui, elle, ne nous en veut pas, mais elle est comme elle est. Et il faut l'accepter. Ça marche pas comme on veut, évidemment. Et on peut pas modeler la nature. Et là, tout d'un coup, on doit l'accepter. Et passer cette frustration-là qui pour moi était difficile, je me suis mis à être bien. Mais la grande surprise, je crois que le vrai personnage de cette pampa de Patagonie dans la partie Argentine où nous étions, c'est le vent. C'est un compagnon qui est constant, qui est joueur. Parfois, on est face à ce vent qui on recule presque. C'est des vents qui vont à plus de 150 km/h parfois, donc c'est une vraie force. Donc on est où on a la tente qui vole, on est couché, elle tape contre le visage tellement le vent il est fort. Et c'est un compagnon imprévisible. On peut partir le matin, ça va, et dans la journée, ben tout d'un coup il va s'animer, il va être là. On a ce bruit constant, c'est un son, et quand il s'arrête, on se dit, oh, c'est silencieux. Et ça va être un des plus beaux endroits où j'ai été.
Waouh. Et qu'est-ce qu'on y fait? Quel était le but? Donc là, tous les jours, on est dans la marche. On marche dans ce milieu qui se ressemble, finalement, avant d'arriver à mieux le comprendre et pouvoir y voir les différences. Et donc on avance un pas devant l'autre avec cette charrette qui porte finalement tout ce qui est essentiel à ta survie dans ce milieu hostile. Pour aller où?
Pour aller... En fait, on voulait ressentir le milieu, on voulait comprendre les Tehuelches, qui étaient des grands marcheurs, c'était des nomades qui se déplaçaient de manière en suivant les bêtes. Et nous, on avait envie de comprendre ce peuple par son milieu, et donc du coup par la marche, puisque c'était leur moyen de déplacement. Et aussi de comprendre ensuite, en allant faire du kayak dans les canaux, pour mieux comprendre les Kawaskars, c'est des peuples qui vivaient quand même côte à côte, qui forcément se connaissaient, mais on avait un côté les Tehuelches qui faisaient 1m80 et d'un côté les Kawaskars qui faisaient 1m60 et qui vivaient nus enduits de graisse de phoque dans des canaux. C'est deux peuples qui étaient complètement différents et qui pourtant donc vivaient côte à côte, et on avait envie pour ça de pouvoir faire les deux. pour vraiment comprendre leur démarche et leur manière de voir le monde, parce qu'ils avaient chacun aussi une manière différente de voir le monde.
Tu parles d'eux au passé, là?
Oui, parce qu'il n'en reste plus. Enfin, il reste une poignée. Quand on a été, en tout cas pour les Kawaskar, en 2009, il en restait 5 vraiment natifs dans un village. Il y a des gens qui sont métissés et qui revendiquent ses origines. Et les Tewesh, il reste encore quelques-uns, mais malheureusement, c'est un peuple qui meurt.
Ce qui a amorcé leur déclin, parce que là on est quand même dans une partie extrême du monde. J'ose croire que des fois la mondialisation ne va pas partout.
Eux ont leur déclin a été amorcé il y a longtemps. C'est pas comme des peuples, on va dire, amazoniens qu'on a retrouvés il y a 20 ans. C'est une extinction qui a été amorcée, je pense, dès qu'il y a eu Magellan qui est arrivé, parce que, en tout cas pour les Tewelch, c'est les Patagons qu'ils rencontrent la première fois. Ce sont les premiers indigènes qu'ils rencontrent. Donc ça a commencé à partir de là. Il y a eu les missionnaires, il y a eu qui ont voulu les évangéliser. En tout cas, il faut bien comprendre, en plus, à l'époque bien pensante, quand ils voyaient des individus nus sur un kayak, ils avaient forcément envie de les habiller. Donc il y a eu aussi beaucoup de mortalité parce qu'ils les habillaient. On est dans un milieu humide. Autant la pampa, c'est hyper sec, autant la partie canot, on est à 90% d'humidité. Il pleut, on va dire, 300 jours de l'année. On a une brume, un tempérament. Ce sont un peuple qui était complètement, pour le coup, adapté à leur milieu. Donc ils vivaient nus parce que tout pourrit. Ils ne pouvaient pas avoir d'habits, ils ne pouvaient pas avoir de fourrure parce que ça pourrissait sur place. Ils mangeaient quand ils pouvaient, donc en fait, ils vivaient vraiment au jour le jour. Et là, c'est un choc des cultures. Les missionnaires, quand ils arrivent, tout ce qu'ils ont envie, c'est de les habiller. Et là, il y a des germes, les vêtements sont humides, ils attrapent des maladies, et en très peu de temps, ils vont décimer. Et après, en plus, ils ont un style de vie nomade, et ils vont vouloir les sédentariser, les éduquer. Enfin, donc il y a eu plein de gens bien pensants pour leur bien qui ont accéléré ce processus-là.
En fait, dans cette exploration, je vois vraiment deux phases. Tu me parles de la phase sèche et de la phase humide, c'est oui. Ça ? Comment se sont enchaînées ces deux phases ?
Ça s'est enchaîné. Enfin, pour nous, en tout cas, ça s'est enchaîné. On est passé de l'un à l'autre assez vite. C'est vrai que c'était autant on avait apprécié cette sécheresse et on avait commencé à s'adapter à ce milieu-là, autant quand on est arrivé dans les canaux, il a fallu qu'on change complètement notre mentalité et qu'on change notre manière de s'adapter. Et ça nous a permis aussi, parce que de comprendre ces Kawaskar qui étaient décrits comme des bêtes. Ils en avaient ramené pour l'exposition universelle de 1900, parce que pour eux, c'était des bêtes sauvages. Mais malgré tout, même si c'était des bêtes, il y a quand même des gens qui se sont intéressés à leur langage et se sont aperçus qu'ils avaient un langage hyper développé, avec pour nous imprononçable, mais néanmoins ils avaient un univers, on va dire, de dieux, de mythologiques, et une manière de représenter la nature de mille et une façons. Et en allant dans ces canaux et en voyant ce temps qui change, on l'a compris mieux aussi. Parce que un rocher, une lumière, un endroit, tout change. Ils ont des arcs-en-ciel. En une journée, on a les 4 saisons dans ces endroits-là. Il peut avoir de la grêle, il peut tout d'un coup avoir énormément de vent. Peut-être qu'on va avoir un petit peu de neige. Après, il va avoir un très grand ciel bleu. Et je crois que forcément, on développe des mots pour décrire un endroit, un caillou, parce que tout paraît se ressembler, mais néanmoins, il y a des subtilités. Et même s'ils avaient l'air d'être des bêtes pour ces gens-là, ils avaient une sensibilité à leur milieu. Et moi qui suis arrivée, évidemment, on avait marché comme ça pendant des mois, on arrive dans les kayaks, et je peux dire qu'après 2 mois de kayak, j'ai le dos qui est complètement développé, je voyais dans le miroir des muscles que je connaissais pas. Et donc, même nous, même en ce petit laps de temps, on s'est aperçu qu'effectivement, je pense qu'à force d'être à faire les mêmes mouvements dans un canac, à kayak, à ramer ou à marcher, et bien effectivement le corps se développe d'une manière différente. Et ça, même de le voir sur 6 mois, c'était vraiment intéressant.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. chemin le plus court pour se découvrir soi.
À la base, tu me dis « je suis une fille des villes ». Donc tu viens de Paris. Comment est-ce qu'on arrive à vivre ce décalage? Comment est-ce qu'on se ressent? Comment tu fais? Parce que c'est quand même deux extrêmes là. Tu es seul à marcher dans un milieu hostile, aride. Tu rentres chez toi, tu es à Paris, entouré par des milliers de gens partout. Comment est-ce que tu vis ce décalage? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on arrive à s'adapter?
Je crois que c'est ça la force de l'homme, c'est qu'il est capable de s'adapter partout. C'est notre grande force. Moi, j'aime les deux. Je suis costumière, je vis dans le théâtre, je le vis la nuit, je vis avec, des artistes. Et à côté de ça, j'aime être dans une grande solitude, loin, dans la nature, et j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux.
Donc Mélusine, on l'a compris, une citadine voyageuse, on va parler de la troisième phase, la phase moto. Parce que tu me disais avant, je suis une motarde avec ta 125 qui a fait 110 000 km, tu t'es dit bon allez, je vais la pousser à l'extrême et je vais voir jusqu'où elle m'emmène. Donc ça c'était quoi? C'était après la Patagonie, cette nouvelle aventure qui a germé dans ta tête, tu t'es dit bon allez, j'y vais?
Ouais, c'était naturel, c'était un appel. Là, je sais pas si la moto m'a appelé ou la route, mais en tout cas j'ai décidé de partir avec elle. De lui dire au revoir parce que voilà, j'avais une relation très particulière avec cette moto. On va dire que pour moi, elle avait sa personnalité. Ça me paraît un peu bizarre et surprenant, mais oui, ça m'a paru naturel. À la suite de cette expédition en Patagonie, j'ai fait on va partir toi et moi et on va aller le plus loin. Et nous sommes arrivés, oui, 4 mois plus tard à Vladivostok, après avoir traversé la Mongolie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Nous avons fait 22 000 km ensemble, elle et moi, voilà. Et finalement, oui, elle s'est arrêtée à Vladivostok et je l'ai laissée chez quelqu'un. Et ça a été une très belle aventure personnelle.
Mais tu dis elle s'est arrêtée, il n'y a plus d'essence, tu peux mettre de l'essence, ou bien elle a cassé, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, elle a cassé, elle était vraiment en mauvais état quand nous sommes partis. Et au fur et à mesure, je l'ai réparée comme je pouvais. Et à Vladivostok, elle a vraiment cassé. Il y a eu le crash fatal qui a fait que là, je dis elle parce que pour moi, oui, c'est un personnage.
Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Poupi.
Ok, j'aurais pas dû poser la question.
Je l'ai jamais dit. Elles ont toutes un nom, hein, toutes mes motos ont un nom. Mais là, c'était ma première moto. Mais oui, elle s'est arrêtée et puis maintenant elle est à la retraite. Elle boit de la vodka.
Quelque part à Vladivostok. Non, mais ce qui est incroyable, c'est donc là tu es arrivé à Vladivostok, mais en partant de Paris, c'est ça? Tu es parti de Paris, seul, dans l'idée d'aller le plus loin possible avec une 125.
C'est ça, j'ai pris la moto, j'avais des sacs, je les ai mis sur la moto et je suis partie. Sans trop me poser de questions, en me disant on ira le plus loin. Mon garagiste m'a dit bon, vous dépasserez pas le périph'. Et quand je suis arrivée en Ukraine, j'avoue que j'étais contente. Je me suis dit, ah oui, quand même. Déjà, on a fait 5000 km, on est sorti de l'Europe, c'est chouette.
Mais donc, c'est un voyage qui n'est pas préparé, c'est vraiment spontané. Tu t'es dit, je vais y aller le plus loin possible avec ma moto. Et t'es partie comme ça.
Oui. La seule chose qui n'a pas été spontanée, c'est que j'ai dû faire des visas. Donc, ça a retardé certaines démarches. Mais sinon, je suis partie sans trop me poser de questions. Puis, en fait, comme je ne savais pas jusqu'où j'allais aller, je ne pouvais pas non plus prévoir tout, puisque j'étais pas sûre. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du voyage. Donc à chaque pays que je traversais, quand j'arrivais au Kazakhstan, j'étais super contente. Puis quand je traversais le Kazakhstan et que j'arrivais en Ouzbékistan, j'étais là, ouais, c'est fantastique, j'ai encore fait quelques kilomètres. Et ainsi de suite, en fait, c'était des victoires au quotidien. Et quand je suis arrivée à Ulan-Bator, je crois que j'étais vraiment ravie. Enfin, j'aurais jamais imaginé en partant que je pourrais aller aussi loin.
Mais ce qui est incroyable, c'est que tu me parles du Kazakhstan ou de la Mongolie, donc c'est des paysages, des immensités incroyables où tu peux rouler plusieurs heures sans croiser personne. Et là, comment tu fais si là, dans cet endroit, au milieu de nulle part, ta chaîne elle claque, ton pneu il crève, t'es en panne d'essence ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, ça n'est pas arrivé. Non, je rigole. On se débrouille en fait. On trouve des solutions. En fait, il faut voir que si on a un problème, on cherche une solution et on se débrouille. Et j'avoue que même dans ces immensités, on a l'impression d'être seul. Mais on n'est jamais seul non plus. C'est arrivé que je sois en Mongolie et là, à ce moment-là, j'étais accompagnée de. On s'est croisé avec un autre voyageur à moto. Mais lui, par exemple, il était devant moi et il tombe. Et il me dit, ouais, je vais la remonter toute seule. Ok, d'accord. Et la venue de nulle part, on a eu quelqu'un qui est arrivé avec une petite moto chinoise, comme ça. On ne savait pas d'où il venait. Il a aidé à remonter la moto, il a aidé Daniel, et puis il est parti. Mais on ne savait pas d'où il venait, où il partait, et puis en plus, en Mongolie, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de route. Il y a des pistes qui sont perdues partout. C'est pareil, il y a des collines qui sont à perte de vue, enfin, quasiment planes, des steppes. Et quand on demande la direction à quelqu'un, il nous dit pas « vous passez là et à gauche et au troisième feu, vous allez dans cette direction-là ». Ils nous disent « eh ben c'est par là, vous suivez un cap ». C'est un cap qu'il faut suivre. C'est complètement irréel. Quand on arrive en Mongolie, on se dit « mais c'est quoi ce pays ?» On est sur un autre mode d'orientation qui est juste génial. Et donc ce Mongol qui venait de nulle part, c'était juste incroyable. Alors que vraiment, il n'y avait personne. Quand on regardait autour de nous, il n'y avait personne et tout d'un coup, il est là. Donc il y a des rencontres comme ça qui sont quasiment miraculeuses et qui sont complètement inattendues.
Et t'as pas à un moment donné une panne un peu galère avec la nuit qui tombe au milieu de nulle part sans vraiment savoir où tu es et comment tu vas t'en sortir ?
Ah, il y a des grands moments de solitude aussi. Hein. Et il faut mettre les mains dedans et on trouve une solution. Et ça, c'est toujours bien fini puisque je suis là. Mais oui, il faut avoir un peu confiance. Mais je crois que oui, c'est peut-être un défaut, mais je me pose pas trop de questions. Enfin, je m'en pose évidemment, je pars pas de manière naïve. Faut avoir confiance, mais pas être naïf. Après, voilà, sur cette première expé avec 725, je suis partie avec le fait que à chaque instant, cette moto pouvait s'arrêter. Et j'ai tout fait pour la réparer, pour aller jusqu'au bout du continent. Et on a réussi toutes les deux. Mais ça pouvait arriver avant. Ça pouvait arriver avant. Et j'ai eu des moments où j'ai cru que c'était terminé. Il y a eu énormément de moments où je me suis dit c'est la fin. Et j'étais désespérée. Mais j'ai toujours trouvé une solution parce que voilà, je me suis battue pour faire en sorte que, ouais, il y a un roulement qui casse. Mais j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit pas de problème, je te le refais. Je suis tombée sur des gens mais généreux et gentils et qui avaient envie que ma mission elle soit remplie au milieu de Sibérie. Moi j'avais des bougies, je sais pas si ça parle aux gens mais ça permet l'allumage de la moto, mais j'avais des bougies chinoises et en fait tous les 50 km la bougie elle était brûlée, elle était fondue, donc il fallait que je les change. Donc j'avais 15 bougies chinoises sur moi, mais tous les 50 km il fallait que je les change. Et ben, je suis arrivée dans une ville, je cherchais des bougies japonaises pour essayer de. Et ben, des motards, ils m'ont donné les bougies de leur propre moto pour que je continue mon voyage. Donc, on tombe comme ça sur des gens incroyables, qui sont là pour aider. Mais on tombe, je parle des gens qui sont à l'autre bout du monde, mais je suis quand même tombée sur des gens aussi au milieu de Rome, sur des policiers, un couple de policiers motards à Rome, qui m'ont hébergée chez eux. Aussi, enfin, il y a des gens aussi proches de nous qui sont à Paris, qui sont en ville et qui sont aussi généreux. Enfin, on a tendance à penser qu'ailleurs c'est mieux, mais on a aussi chez nous des gens qui sont prêts à le faire.
Et pour finir, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Grand Bivouac ?
Comment ?
Qu'est-ce que tu fais au Grand Bivouac ? Tu viens y présenter quel projet ou quelle aventure ?
Je viens présenter les routes persanes. Qui sont ma deuxième expédition à moto, où je suis allée plus particulièrement en Iran. Et là, je suis partie par contre avec une moto neuve et une 800, donc ça a un peu changé la donne. Mais c'est toujours la moto, c'est toujours un vecteur de rencontre et c'était une très belle expédition qui m'a permis vraiment de rencontrer de très belles personnes, surtout en Iran.
Merci Mélusine.
Merci.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.